Slate Podcast.
C'est pas faux.
That's what the money is for.
C'est bon, Lou.
Come on, go.
The danger. I am the one who knocks.
I think that I may be cup of coffee. The voice of my generation.
Suit up.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans la saison 2 de Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la taureau alpha de cette émission, Marie Telling. Bonjour Marie.
Bonjour Anaïs.
On est super contente de vous retrouver pour cette saison 2, qu'on espère encore plus riche, encore plus folle, encore plus iconoclaste. Et pour ce premier numéro de l'année, on vous parle de la série la plus populaire du câble américain en ce moment. Plus de 7 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de la saison 3, diffusé en juin aux États-Unis, c'est juste énorme. Pourtant, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, et elle n'est pas diffusée en France.
Cette série, c'est Yellowstone, diffusée sur Paramount TV, elle explose les records en Amérique, mais passe complètement inaperçue dans la conversation médiatique. De quoi ça parle? D'une famille qui tient un ranch dans le Montana, et qui passe son temps à râler, tuer des gens et courir après des vaches.
Comment expliquer ce succès, aussi phénoménal que discret? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi le pic de ta semaine?
Alors moi, j'ai passé l'été à éviter les séries comme la peste, donc je n'en ai vu aucune, pas une seule, sauf celle dont on vous parle aujourd'hui. Et cette diète sérielle m'a fait le plus grand bien après l'overdose de séries de ces dernières années. Je le recommande à tous les fans de séries, on est d'autant plus contents de retrouver ses programmes préférés après un break. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic?
Le pic de ma semaine, c'est l'arrivée sur Netflix d'une nouvelle saison de Chef's Table, la série documentaire sur les grands restaurants et les grands chefs. Et cette saison me plaît tout particulièrement puisque c'est une spéciale barbecue. Or, certains le savent déjà, j'ai vécu au Texas. Et là-bas, on mange beaucoup de spécialités barbecue, notamment des ribs, du brisket, du pulled pork, enfin beaucoup de viande. Et le barbecue, c'est un peu ma grande passion. Alors je dois dire que Chef's Table reste encore un peu enfermé dans sa formule dans cette nouvelle saison, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à plus se concentrer sur la vie intime des chefs et sur des récits de parcours personnels un peu larmoyants, je trouve, plutôt que sur la technique culinaire en tant que telle. Donc c'est un peu frustrant, mais si comme moi vous avez juste envie de regarder de la poitrine de bœuf fumée qui bloblotte, bah regardez Chef's Table Barbecue parce que vous serez pas déçus. Et cette semaine, on va rester dans la thématique cow-boy et barbecue, pas au Texas cette fois-ci, mais dans le Montana, où se déroule la série Yellowstone, dont vous entendez un extrait de la BO, un extrait magnifique d'une chanson country qui s'appelle Daddy Doesn't Pray Anymore.
Waouh!
Alors Yellowstone, qu'est-ce que c'est? Ça se passe de nos jours, dans le Montana, et ça part d'une famille très riche qui possède un ranch et qui tente de défendre ses terres contre divers projets de rachat. C'est avec Kelly Reilly, Missy, vous savez, l'anglaise qui joue dans l'Auberge espagnole, et Kevin Costner, Missy, vous savez, le vieux mec qui joue dans Les Figures de l'Ombre et qui dit « À la NASA, on pisse tous de la même couleur ». Donc c'est Kevin Costner qui joue le patriarche de cette famille, Marie, et c'est lui qui veut à tout prix protéger son ranch des envahisseurs.
Oui, Yellowstone, c'est vraiment les Indiens et les cow-boys revisités. Et je dis Indiens et cow-boys, bien sûr, on parle d'Amérindiens, hein, mais c'est vraiment le cliché des westerns indiens versus cow-boys. Sauf que, bien sûr, ça se passe de nos jours. Donc, les circonstances sont différentes. On a un Kevin Costner qui est propriétaire d'un grand ranch de cattle, donc
de bétail.
Il élève du bétail. Et donc c'est tous des cow-boys hein, qui travaillent sur ce ranch, dont lui aussi, et on nous parle tout le temps des cow-boys, et qu'est-ce qu'il faut pour être un cow-boy, et c'est super d'être un cow-boy. Et juste à côté, on a une réserve amérindienne dont le leader veut récupérer les terres de Kevin Costner, qui avant appartenait aux Amérindiens. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le ranch de Kevin Costner dedans fait la taille du Rhode Island, et j'ai vérifié en comparant avec des départements français, c'est la taille du Vaucluse. Donc c'est un très très grand territoire, et il y tient à son territoire, il en parle tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les clichés des Indiens versus les cow-boys, c'est qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de Californie pour développer, faire des développements touristiques dans la région, et qui donc menacent aussi bien la réserve que les terres de Kevin Costner. Donc il y a toutes ces dynamiques qui sont intéressantes, c'est très cliché. Et ce qui est parfois assez dingue dans la façon dont ça utilise ces clichés, c'est que ça essaie de les retourner, mais de façon très maladroite. Il y a un moment où une Amérindienne dit à Kevin Costner « Maintenant, c'est toi l'Indien ». Et pourquoi elle lui dit ça? C'est parce que le mec qui donc a un ranch de la taille du Vaucluse, il y a des gens qui veulent construire un hôtel juste à côté, et donc il est menacé. Et donc elle compare ça, on est censé croire qu'elle comparerait ça au sort des Amérindiens qui ont été massacrés et dont on a pris toute leur terre.
Oui, il faut savoir que la série est co-créée, majoritairement écrite et réalisée par Taylor Sheridan. Pour resituer qui c'est un ancien acteur qui a incarné David Hale dans Sons of Anarchy pour les séries Phil, et qui est ensuite devenu scénariste, et notamment de western, puisqu'il a écrit les scénarios de Sicario et Comancheria, qui étaient nommés à plein d'Oscars il y a quelques années. Et ensuite, très récemment, il a réalisé un autre film western qui s'appelle Wind River, et qui avait déjà essuyé une petite polémique, puisque c'était avec Jeremy Renner et Elisabeth Olsen, qui venaient enquêter sur un meurtre dans une réserve amérindienne. Et donc c'était la vie d'une réserve amérindienne vue à travers les yeux d'un homme blanc, en gros. Donc il y avait déjà eu des critiques à l'époque sur Taylor Sheridan, qui lui-même est un homme blanc, qui a une grande passion pour les westerns et qui lui-même a grandi au Texas, mais qui du coup raconte un peu ses histoires de sa perspective de cow-boy, en fait.
On sent qu'il veut avoir une perspective différente et qu'il veut renouveler le genre en justement en incluant beaucoup plus une perspective amérindienne. Le problème, c'est qu'il n'est pas très équipé pour le faire lui-même, et que son écriture est pas assez fine et subtile pour le faire, donc ça devient très maladroit. Après, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, au niveau du casting, on a rarement vu une série avec autant d'acteurs amérindiens. Ils ont souvent des seconds rôles, mais il y en a quand même énormément.
Oui, et comme je le disais dans l'introduction, la série bat des records d'audience aux États-Unis. Le pilote de 2018 est immédiatement devenu l'épisode le plus regardé de Paramount TV, qui sort pas énormément de séries, mais qui avait déjà produit la série Waco. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était une série avec Tim Riggins de Friday Night Lights, et qui parlait de la fusillade de Waco, où en fait la secte de la branche des Davidiens a été assaillie par le FBI, et il y a eu beaucoup de morts, et donc c'était une mini-série qui retraçait un peu les événements qui ont mené à cette fusillade et à ce drame. Et depuis, l'audience de Yellowstone, donc depuis sa sortie en 2018, ne fait qu'augmenter de saison en saison. Et pour la plus récente, la saison 3, chaque épisode rassemblait en moyenne 6,5 millions de téléspectateurs. Donc c'est vraiment énorme. Le plot twist, c'est que c'est hyper nul. En fait, derrière les beaux paysages et le casting de stars, il faut quand même dire que c'est surtout un gros ramassis de clichés, cette série.
Oui, en fait, c'est un soap-opéra qui se donne des airs de prestige parce que c'est très bien filmé, mais ça reste un soap-opéra. Donc c'est très très cliché, c'est mal écrit. Et surtout, déjà, il y a des répliques qui sont mais absolument ahurissantes, mais du coup, c'est hyper drôle à regarder. Moi, honnêtement, j'ai dû regarder toute la série, là, les 3 saisons en 10 jours, et j'ai un espèce de syndrome de Stockholm où ça me manque vachement, mais ça m'a fait tellement rire, c'est totalement absurde. Mais surtout, au niveau de l'intrigue, il y a des gros, gros problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps tous en train de s'entretuer, mais on comprend pas pourquoi. Parce qu'on se dit, mais ils sont juste en train de garder des vaches, pourquoi ils ont besoin de tuer tout le monde? Et en plus, on se retrouve avec des intrigues qui sont complètement fabriquées à l'envers, c'est-à-dire on appelle ça le reverse engineering en anglais. On sent qu'ils ont décidé que, par exemple, Beth, la fille de la famille, allait être une espèce de badass, elle en a des couilles, parce qu'on sent vraiment qu'ils l'ont construit en fait comme une version très masculine d'une femme. Et en fait, au fil des saisons, ils dévoilent pourquoi elle est comme ça, mais on sent que cette histoire, cette backstory a complètement été fabriquée après la décision d'en faire un personnage comme ça. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des histoires en arrière, en amont, qui vont expliquer son personnage. Et par exemple, il y a une autre intrigue qui devrait être majeure, c'est-à-dire que dans le premier épisode, quand même, il y a le fils aîné de la famille qui meurt. On n'en entend plus jamais parler. Il y a 4 enfants, il y en a un qui est mort dans le tout premier épisode, c'est censé être l'élément séminal de l'histoire. Il n'est pratiquement plus jamais mentionné, on ne voit jamais le deuil, alors que Kevin Costner vient de perdre son fils, on ne voit jamais son deuil. Il y a quelque chose quand même, on se dit, et ça arrive pendant toute la série, c'est-à-dire qu'il y a plein d'intrigues qui sont lancées à droite et à gauche qui ne mènent nulle part, et il y a plein d'intrigues où on se demande mais pourquoi je regarde ça, quoi, en fait.
Ouais, on va écouter un extrait que personnellement j'adore, qui montre un peu le niveau de qualité de l'écriture, où c'est le personnage de Kevin Costner qui parle à son fils, et il est content parce que son plan de lui donner un travail a bien marché. Alors je vous laisse écouter, c'est vraiment fabuleux.
Well, it's nice to see a plan work out for once. I guess your plan did work out, Dad.
Well, not my plan, my dream maybe, but your plan.
Your plan for me, if you want to get down to it.
All right, well, if you want to get down to it, no matter what my plan was, if it ain't your destiny.
Voilà, donc je vais vous traduire pour ceux qui parlent pas anglais. En gros, le résumé, c'est « c'était mon plan ». Mais non, papa, c'était ton plan pour moi. Oui, enfin, si tu veux aller comme ça, c'était mon plan, mais c'était plutôt ton destin. Ok, mais c'était quand même un peu mon plan. Voilà, c'est vraiment... Et c'est ce niveau... En fait, si vous choisissez n'importe quel épisode de Yellowstone et que vous vous arrêtez à n'importe quel moment de l'épisode, vous trouverez une réplique comme ça. C'est juste incroyable.
On a eu du mal à choisir des répliques pour cet épisode, tellement il y en avait en fait.
Voilà, et comme disait Marie, c'est hyper soap opéra, donc c'est censé quand même être une histoire de ranch et de d'une famille qui essaye de protéger ses terres, mais c'est hyper soapy. On a un nombre incalculable de meurtres, de fratricides, de trahisons, d'opérations d'espionnage vraiment très élaborées, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des méchants qui jettent des bottes de foin empoisonnées du haut d'un avion militaire en pleine nuit pour que les vaches soient empoisonnées. Enfin, j'ai jamais vu aucune vache qui a eu une vie aussi dramatique que celle de Yellowstone. Franchement, c'est vraiment beaucoup trop de drama pour des vaches. Et en fait, c'est incessant, c'est-à-dire que plus la série avance, plus on sort de des intrigues de juste il faut acheter des chevaux et machin, et plus on rentre dans Scarface en fait. C'est vraiment, il y a un nombre de fusillades incalculable pour cette famille quoi.
Ouais, enfin Scarface c'est vraiment très généreux parce que c'est vraiment pas Scarface.
Déjà à la base je voulais dire Le Parrain, mais en fait je me suis dit que c'était vraiment beaucoup trop généreux, donc j'ai un peu rétrogradé, mais Et alors, le problème, c'est que c'est pas juste des mauvaises répliques qui sont, j'avoue, particulièrement savoureuses, c'est que toute l'idéologie qu'il y a derrière est quand même assez malsaine, notamment en ce qui concerne la masculinité toxique.
Oui, c'est une série sur des hommes qui sont des vrais hommes, tu vois. C'est des vrais Américains, c'est des vrais hommes, et on te le répète tout le temps. Et en fait, par exemple, il y a un moment où t'as deux mecs qui se battent, je me souviens plus pourquoi, parce qu'ils sont tout le temps en train de se battre, et il y a Kevin Costner qui arrive, et l'un des deux mecs est quand même son fils, et l'autre est son protégé, et quelqu'un lui dit « Est-ce qu'il faut qu'on les arrête ?» Il dit « Non, non, laisse-les, ils ont besoin de ça pour grandir, tu vois. » Et à un autre moment, il y a un personnage qui est un peu plus vulnérable, qui pleure de douleur, et on lui dit « Oui, c'est dur de devenir un homme, mais c'est mieux que l'alternative, tu vois. » Et il y a vraiment tout le temps cette idée de l'homme seul contre tous, seul contre la nature, qui arrive à dominer la nature. Il y a plein de moments où il y a un loup qui apparaît. Et un des personnages a un espèce de rapport bizarre avec le loup, parce que le loup le regarde tout le temps faire l'amour de sa mère. En fait, le loup le regarde faire l'amour avec sa femme, et lui, il voit le loup, et il se dit, bah ouais, il veut juste nous regarder, quoi, et on continue. Et après, il parle au loup, et le loup le comprend. Et vraiment, il y a un truc, en fait, il y a vraiment toute une mythologie de l'homme américain, du Grand Ouest, face à la nature, et face aux éléments, et qui protège ses terres. Et on en reparlera par rapport à l'idée de propriété privée, parce que c'est vraiment important. Mais il y a vraiment cette idée-là, et il y a une idée aussi par rapport aux femmes, dans la série aussi, en miroir de ça, quoi.
Oui, bah en fait, à la fois les hommes, c'est vraiment, comme tu disais, le côté taciturne, en fait, qui n'exprime pas ses émotions et qui ne s'exprime qu'à travers la force physique. Et pour les femmes, bah on a parlé du personnage de Beth, c'est vraiment la plus grosse insulte faite aux femmes, je pense, de l'histoire de la télévision. Elle est jouée par Kelly Reilly, qu'on aimait bien avant, mais maintenant on a un peu du mal à l'aimer, puisque la définition de ce personnage, en gros, c'est qu'elle a des gros seins et qu'elle est tout le temps en colère. C'est vraiment ses deux seules caractéristiques. Elle est tout le temps bourrée, elle a peur de rien, elle est vraiment, elle a pas sa langue dans sa poche. Et en fait, c'est un cliché assez sexiste aussi, puisque c'est une vision d'une femme qui est imaginée par des hommes, hein, qui n'existe pas, qui est hyper bonne et qui en même temps a des vertus très masculines ou des qualités qu'on considère comme masculines, c'est-à-dire la force, l'absence de peur. Elle a des couilles en fait, quoi. C'est une femme avec des couilles, et c'est un cliché profondément sexiste au final d'avoir une femme comme ça. Et d'ailleurs, les autres personnages féminins de la série sont aussi des archétypes. On a Monica, qui est la femme amérindienne, qui est l'archétype de la douceur et de l'innocence et de la sagesse. Et après, on a d'autres femmes qui sont des espèces de businesswoman en talons hauts, comme Beth, qui sont genre des traînées, mais qui sont aussi agents immobiliers, slash avocates, slash as de la finance, qui détruisent tout sur leur passage et qui n'ont aucune émotion. Et on a des jeunes filles qui font des courses à chevaux et qui, elles, sont des énormes traînées, qui couchent avec tout ce qui bouge et qui n'ont pareil, aucun sentiment, et surtout elles n'ont aucune vie intérieure, elles n'ont aucune complexité. C'est vraiment assez catastrophique l'état des personnages féminins dans cette série, quoi.
On peut résumer, je pense, la perspective de la série sur ces personnages féminins à une citation de Kevin Costner qui dit « If your daughter's riding a horse, no one's riding her ». Ce qui veut dire littéralement « Si ta fille monte un cheval, personne ne la monte à elle ». Donc voilà, c'est de ce niveau, quoi.
Oui, en gros, les femmes de la série doivent être aussi fortes et sans émotion que les hommes, quoi.
Voilà.
Mais alors, le problème, c'est que si c'est si naze, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès, qui est quand même incroyable, de la série ?
Bah déjà, il y a le casting. C'est un casting très prestigieux, avec Kevin Costner au centre du casting. Kevin Costner, qui est très connu pour des rôles dans les années 90, comme son rôle dans Danse avec les loups. Donc, il a vraiment une identité qui est un peu rattachée déjà au western. Et ça, ça a attiré le public. En plus, parce qu'il est aimé aussi du public américain, hein, c'est un acteur assez populaire. Après, il y a aussi tous les éléments visuels de la télé de prestige, c'est-à-dire que c'est très bien réalisé, il y a des très beaux paysages, la cinématographie est hyper bien léchée. Et en plus, bah, ce côté cinématographique, on le retrouve même dans la chaîne sur laquelle la série est diffusée, puisque c'est Paramount TV, qui est, par définition, une télé, c'est un studio de ciné, donc c'est une télé très cinématographique, et on retrouve vraiment ça dans la série, où on passe, enfin, de longs, longs moments à regarder juste des chevaux galoper dans les grandes plaines du Montana, et moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avoir un ranch dans le Montana.
Ouais, en gros, on sent à chaque plan et à chaque scène d'action que ça coûte très très cher, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de scènes d'action avec des troupeaux entiers d'animaux, que ce soit des bisons, des chevaux, des vaches, et les scènes, par exemple, il y a énormément de courses-poursuites avec des chevaux, et ils sont vraiment filmés, mais sous tous les angles, quoi. Donc on sent qu'ils ont passé énormément, énormément de temps à filmer ces scènes, que ça a coûté très cher, et donc il y a une patine prestige qui est indéniable. Et puis, je pense qu'une autre raison du succès, c'est vraiment l'idéalisation, comme tu disais tout à l'heure, de l'Ouest américain, et de ce qu'on appelle le cowboy way of life, enfin la vie du cowboy, quoi. Puisque c'est vraiment ça, c'est ils ont tous des chapeaux, ils ont tous des vestes en cuir, ou des vestes un peu en peau, quoi, et ils font que grogner, et monter des chevaux, et s'entretuer. Donc il y a vraiment un côté caricatural de la vie dans l'Ouest. Et d'ailleurs... c'est pas un hasard, puisque le western, c'est vraiment un genre qui est traditionnellement associé à la défense de l'American Way of Life. D'ailleurs, un des grands défenseurs de l'American Way of Life, c'est John Wayne, qui est l'acteur de western par excellence et qui est à droite, conservateur, etc. Il y a aussi Clint Eastwood, qui défend cet American Way of Life et qui lui aussi est fortement associé au genre du western et au droit du port d'armes et qui est à droite. Et on a même le président George Bush, en 92, qui avait défendu explicitement dans un discours l'American Way of Life en disant que c'était quelque chose qu'il voulait protéger par-dessus tout. Donc on sait que le western est traditionnellement associé à cette défense de l'Amérique ancestrale, en tout cas ancestrale pour les Blancs, hein, avec la beauté de la nature et la préservation de nos terres et la beauté des ranchs et la symbiose avec la nature.
Oui, il y a même Ronald Reagan, qui donc était acteur avant d'être président, qui avait joué dans plusieurs westerns et qui jouait pas mal sur cette identité aussi dans son image publique.
Ouais, en gros, cette série, il faut savoir que c'est 85% du temps des gens qui se menacent et qui font du cheval. Donc c'est vraiment une vision très caricaturale du western. Et on a fait un petit montage pour vous faire plaisir de quelques-unes de ces menaces. Et vous allez voir, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'un personnage en menace un autre, l'autre le remenace, et ensuite l'autre le remenace, et en fait, il y en a aucun qui veut avoir le dernier mot, donc c'est vraiment, tu vas voir ce que tu vas voir, et là l'autre répond, non, c'est toi qui vas voir ce que tu vas voir, ouais mais toi tu vas voir encore plus ce que tu vas voir, et toutes les interactions de Yellowstone, c'est ça, je vous propose d'écouter.
Hey, I blew your shift for brains all over this field.
Then fucking do it.
We'll see each other again, I'm sure.
You better hope I never see you again.
It's time to fight me fair.
Shit, I'll fight you fair. Get off your horse.
I need proof that those are brucellosis free.
If you're man enough, come and get it. Anytime you want to wrestle a bear instead of a cub, you pick the barn, John. I'll meet you behind it.
Wade, you have something belongs to me.
Come and get it.
I plan to.
Ces menaces qu'on vient d'entendre, c'est souvent lié à la protection du territoire et des terres. Et ça, c'est vraiment très important dans Yellowstone, parce qu'il y a vraiment un sens de propriété privée, ça c'est très important, d'individualisme. Il y a un moment, il y a une scène où les pauvres, c'est des bikers de Californie qui viennent faire un barbecue sur le domaine de Kevin Costner. Donc ils ont coupé aux sécateurs une petite part de la clôture. Ils vont faire un barbecue sur 2 mètres carrés du domaine qui fait quand même la taille du Vaucluse, je le rappelle. Et là, ils sont menacés de mort, ils doivent creuser leur propre tombe. Et Kevin Costner leur demande carrément, si quelqu'un venait chez vous et traitait votre propriété à vous comme vous avez traité ma propriété à moi, qu'est-ce que vous feriez? Et les mecs lui répondent, ah ben on le tuerait. Et t'es là, non mais sur quelle planète on vit? Et en fait, il y a vraiment un truc dans la série autour de la notion justement de propriété privée, une idée très libertarienne de... On fait sa propre justice, on a nos armes, on ne laisse pas le gouvernement interagir dans nos actions, on règle nos propres conflits et surtout on protège son espace, ce qui nous appartient. Il y a un moment, Kevin Costner, son personnage, rencontre un touriste chinois encore une fois sur sa terre et lui dit « This is America, we don't share land here ». C'est l'Amérique ici et on ne partage pas le territoire. Donc il y a vraiment cette idéologie très libertarienne, conservatrice, qui est très très présente dans la série et qui, je pense, plaît à un certain public américain.
Oui, et comme on le disait, de toute façon, c'est un genre qui est associé aux valeurs de droite de manière plus ou moins directe avec Clint Eastwood, etc. Après, ce qui est intéressant avec cette série, et je pense que c'est pour ça qu'elle plaît aussi, c'est que c'est une vision, au final, presque dépolitisée du conservatisme, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres séries qui sont diffusées aux États-Unis actuellement, il n'y a aucune référence directe au gouvernement actuel de Trump, il n'y a quasiment aucune mention de démocrates et de républicains, puisque même les quelques candidats politiques qui sont dans la série sont indépendants en fait, donc la série est presque dépolitisée, tout en reflétant ces valeurs qui sont de toute évidence conservatrices, mais comme c'est pas dit explicitement, c'est une vision qui est assez douce et acceptable par la majorité, je pense, parce que en ce moment, il y a beaucoup de séries aux États-Unis qui, elles, pour le coup, sont plutôt à gauche, qui défendent des valeurs progressistes, d'inclusivité, etc., et qui, elles, parfois, le font de manière un peu plus criarde, comme The Good Fight, hein, on va prendre l'exemple de The Good Fight, dont on parlait dans le premier épisode de Pic TV. Et donc, je pense qu'il y a un certain public qui se reconnaît plus dans Yellowstone, parce que ça parle de politique sans parler de politique, en fait. Et ça, ça a un côté, peut-être, je sais pas, débranchage de cerveau qui doit plaire à certains.
Je pense que c'est aussi une façon de confirmer leur idéologie de façon déculpabilisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit racial dans Yellowstone, il y a des conflits entre la réserve et le ranch, mais en même temps c'est dénué de sous-entendus raciaux, en fait. C'est vraiment sur qui est propriétaire de quoi, même s'il y a une histoire derrière, mais en même temps la façon dont il la traite est, on l'a dit, maladroite, mais complètement détachée de ces conflits-là. Il y a un noir, mais on parle jamais de sa position en tant que seul noir dans le ranch. Il n'y a aucun personnage LGBT. C'est mentionné peut-être une fois comme blague que quelqu'un est gay, mais c'est tout. Il y a un moment, une fille qui arrive qui... moi, quand elle est arrivée, je me suis dit « Ah tiens, ça va peut-être être l'occasion d'avoir un personnage LGBT dans la série », mais en fait, pas du tout. Elle a une relation avec un mec sous trois épisodes. Mais en même temps, il ne parle jamais. Il n'y a jamais non plus une seule remarque anti-LGBT. Il n'y a jamais une remarque raciste. Mais c'est un univers dénué de tous ces conflits, de toutes ces choses qui provoquent certains Américains, en fait.
En fait, c'est la vision un peu idéalisée d'une certaine partie des républicains américains de ce que c'est qu'être républicain. C'est-à-dire que à l'élection de Trump, on nous a quand même dit que le racisme et le sexisme et l'homophobie avaient joué quand même une grosse part dans l'élection de Trump. Mais dans cette série, tous ces problèmes-là n'existent pas, puisque de toute façon, la représentation n'existe pas non plus. Et donc, c'est un peu une vision paradisiaque ou idéalisée de ce que c'est le monde républicain. C'est-à-dire que on est avant tout sur des valeurs de la terre, mais on parle pas du tout de problématiques sociales. Et ça, je pense que ça plaît à un très grand nombre d'Américains qui se reconnaissent là-dedans et qui ont pas envie qu'on les emmerde, en fait, avec des questions de justice sociale. Et je pense que c'est pour ça que cette série a du succès au final, quoi. Mm-hmm. Avant de se quitter, Marie, je voulais te proposer un petit atelier lecture, puisque, bah, comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de moments dans cette série qui sont savoureux et on n'a pas pu résister à vous en partager quelques-uns supplémentaires. Alors, ce serait bien qu'on puisse chacune, en fait, lire certaines de nos répliques préférées de Yellowstone et on va vous laisser savourer ça parce que c'est vraiment génial. Alors, Marie, à toi l'honneur, c'est quoi une de tes répliques préférées de Yellowstone ?
Alors, il y a un moment où quelqu'un fait un compliment à quelqu'un d'autre, et voici le compliment, c'est « Pour quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, tu as beaucoup de couilles. » Et c'est parce que le mec s'est un peu cassé la colonne vertébrale en tombant d'un taureau.
On en a une autre qui est, encore une fois, la différence fondamentale entre les hommes et les femmes, selon Yellowstone. C'est ça la différence entre élever une fille et un fils. Tout ce qu'on fait avec une fille, c'est l'empêcher de se faire baiser. Tout ce qu'on fait avec un fils, c'est l'empêcher de se baiser lui-même. Incroyable.
Il y a un autre moment où un mec invite une meuf, enfin, il invite Beth, la fille de la famille, à un festival de musique et elle lui dit « Non mais tu te fous de ma gueule, choisis quelque chose qui est plus en lien avec ma personnalité » et il lui dit « Tu vas aller te bourrer la gueule et regarder des loups qui tuent des élans dans le parc » et elle lui dit « C'est moi qui conduis, voilà.
» Magnifique. Alors il faut préciser que c'est la meilleure histoire d'amour de la série, c'est entre Beth qui est la meuf badass tout le temps à poil et Rip qui a toujours de la terre sur son visage parce que c'est un vrai homme, donc il est jamais propre. propre.
Surtout, il n'enlève jamais son chapeau de cow-boy. On le voit deux fois dans la série sans son chapeau. Quand il cuisine, il a son chapeau de cow-boy. Quand on l'a pas vu se doucher, mais je suis sûre qu'il garde son chapeau de cow-boy. C'est il clair. A toujours son chapeau de cow-boy.
On ne sait pas à quoi ressemblent ses cheveux.
Mais en plus, le truc, ça c'est vrai, il faut le dire quand même. Enfin, c'est que un des problèmes de la série, c'est que même dans les séries les plus nasses, souvent les histoires d'amour sont fun à regarder. Et là, vraiment pas. On sent que le mec ne sait pas écrire ça. Il y a aucune tension sexuelle. Les histoires d'amour sont nullissimes.
C'est clair. Alors, je vais partager une dernière de mes citations préférées, qui est, encore une fois, Beth, la meuf trop cool, qui dit « Si je mange un autre steak, ma prochaine coloscopie va devoir être faite avec un putain de tuyau de pompier. » Voilà, je pense que ça vous donne une petite idée de si vous avez envie de regarder Yellowstone ou pas après cet épisode.
Moi, je le recommande vraiment chaudement, quoi.
Moi aussi. Franchement, on s'est beaucoup amusés.
Elle va vraiment beaucoup me manquer comme série.
C'était Pic TV, merci Marie et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et d'être au rendez-vous pour cette deuxième saison. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour Pic TV sur les réseaux sociaux. À plus !